Chalim était compté. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Lors de notre dernière émission, nous avions rapidement évoqué un document extrêmement important pour nous, à savoir donc le témoignage des responsables municipaux, on dira maintenant, de Fontaine-Chaalis lorsqu'ils se sont retrouvés en 1789 à la tête d'une charge tout à fait énorme, puisque, comme chacun le sait, à la Révolution, les biens de l'Église deviennent des biens nationaux. Donc ils vont devoir assurer la sécurité, c'est déjà à l'époque un terme qu'on entendait souvent, la sécurité des biens, à savoir bien sûr les immeubles, mais aussi la sécurité de ce qui fait le fort Knox de l'abbaye, c'est-à-dire la forêt. La forêt qui représente un nombre d'hectares respectable, difficile de le calculer, puisque à cette époque, on ne parlait pas d'hectares, mais d'arpents. En gros, on va dire qu'un arpent, c'est un demi-hectare. Ça représente plus de 1000 hectares de forêt qu'il va falloir surveiller, parce que les vols vont concerner surtout les vols de bois. On va couper les arbres et bien sûr s'emparer du bois, qui à l'époque, évidemment, est une source d'énergie essentielle pour les habitants de notre région. Alors ce document a été retrouvé. Il était connu des habitants de Fontaine-Chaalis, du moins de certains d'entre eux. Il se trouvait dans un placard de la bibliothèque de Fontaine-Chaalis. On a bien sûr commencé par sauvegarder ces documents en les numérisant. Et quelque temps plus tard, ce document a été mis entre les mains des archives départementales de l'Oise par Alexis Patria, le maire de Fontaine-Chaalis. Et c'est une excellente chose parce que c'est un témoignage très rare, je trouve, de la bonne volonté des habitants de la paroisse d'abord, puis rapidement on va le voir, de la commune de Fontaine-Chaalis, de participer à l'effort national et de conserver ce qu'ils considèrent aussi comme étant leur patrimoine. Je voudrais dire aussi que les temps reculés ont toujours tendance à nous faire prendre, n'est-ce pas, nos ancêtres, comme des benêts. Je veux dire par là qu'il y avait dans la vie rurale de cette époque une vie sociale très organisée, avec des codes très précis, et il était inconvenant, voire interdit, de ne pas respecter ces codes. Et ils ne sont pas plus stupides que nous. Lorsqu'il y a des affaires à faire, eh bien, certains d'entre eux vont s'organiser, par exemple, pour acheter des terres lorsque celles-ci vont être à vendre. Malheureusement pour eux, cette association de particuliers, qui n'avait pas beaucoup de sous, hein, on dira de nos jours, ne va pas perdurer parce qu'une loi révolutionnaire va supprimer le droit d'association et de corporation en particulier, ce qui fait que ces mini-sociétés créées par les habitants ne pourront pas véritablement fonctionner pour acheter à plusieurs quelques arpents qui auraient pu améliorer leur quotidien. Donc, ne soyons pas négatifs en pensant que ces gens-là avaient au-dessus d'eux la chape seigneuriale, la chape de l'Église, qui les empêchait d'avoir des initiatives et des idées. Et on verra qu'ils vont essayer, à leur tour, de les mettre en œuvre. Peut-être que la première chose que l'on pourra évoquer, c'est du vide. Parler du vide, c'est difficile. Tout simplement parce que nous n'avons pas d'archives qui datent de 1789, c'est-à-dire en pleine révolution. Rien sur le 14 juillet, rien sur la grande peur qui a précédé, ni sur les difficultés qui vont se succéder. Nous n'avons pas d'archives, mais peut-être ne s'est-il rien passé. Lorsque la paroisse ne se trouve pas être sur une route de circulation importante, eh bien, les informations passent mal. Il y a les gens qui voyagent, mais on ne voyage pas très loin, on se rend rarement à Paris. Donc il est probable qu'à Fontaine-Chaalis, comme à Chaalis, les événements ne vont pas marquer les esprits, alors que plus tard, évidemment, les historiens vont en faire des événements majeurs et Pensez donc à la prise de la Bastille du 14 juillet. Donc, il y aura toujours un décalage temporel, un décalage entre ce qui se passe à Paris et ce qui se passe dans la campagne. Il y aura toujours un décalage entre les idéaux révolutionnaires et la véritable pratique populaire telle qu'on a pu la suivre à Fontaine-Chalie, concernant bien sûr l'abbaye de Chalie, qui est le sujet de nos interventions multiples sur cette antenne. La première chose que nous verrons, plutôt la seconde si j'en suis mon discours, c'est la formation de la commune, des municipalités. Alors là aussi, il faut être très prudent. Il ne faut pas croire que d'un seul coup, les révolutionnaires vont sortir de leur chapeau des idées tout à fait novatrices. Il y avait déjà dans l'air de nouveaux découpages administratifs et entre autres, les municipalités en font partie, il était prévu de découper les provinces en ce qu'on aurait pu appeler des départements. Donc la division de la France en départements n'est pas simplement une idée novatrice révolutionnaire, elle était déjà, comme on dit vulgairement, dans les tuyaux à cette époque. La formation donc de ces municipalités, on va en parler tout de suite avec André, puisque le 14 décembre 1789...
Eh bien, le 14 décembre 1789, l'Assemblée nationale met en place les communes à l'image de celles de Paris, pour remplacer les anciennes paroisses du royaume. L'organisation des communes est identique dans tout le pays. Un conseil général est élu par les seuls citoyens actifs, c'est-à-dire ceux qui paient au moins un impôt égal à 3 journées de travail, qui ont plus de 25 ans et qui habitent la commune depuis plus d'un an. Pour être éligible, il faut être électeur et payer l'équivalent de 10 journées de travail. Le conseil général est composé pour un tiers par un conseil municipal et pour 2/3 par des notables. Un procureur est également élu. Son rôle est de représenter et de défendre les intérêts de la commune et des contribuables. Petit à petit, son rôle prend de l'importance et il se fait le relais de l'autorité nationale. Une maison commune, la mairie, est établie dans chacune des 41 000 communes du royaume pour accueillir toutes les manifestations officielles et les réunions du Conseil général.
Voilà, donc, c'est la mise en place de ce qu'on appelle de nos jours le conseil municipal, mais il y a quand même des restrictions à apporter, puisque les 2/3 sont constitués par les notables, c'est-à-dire les personnages importants, n'est-ce pas, de l'ancienne paroisse, hein, puisqu'on ne va plus utiliser ce terme, et puis seulement un tiers va être constitué par des gens qui vont être élus, mais sous condition d'âge et surtout de revenus. Donc on est loin d'être devant une élection, comme on dit de notre temps, démocratique. Pas de suffrage universel encore, et ne parlons pas du rôle des femmes qui n'est même pas évoqué un seul instant.
Mais qui sont ces notables ?
Alors les notables, la plupart du temps, ce sont des gens qui avaient déjà, du temps de l'Ancien Régime, une importance politique ou économique. Moi, je pense par exemple à ceux qu'on appelle les laboureurs. Alors les laboureurs, ce terme va petit à petit disparaître au bénéfice d'agriculteurs ou de fermiers, mais ces termes sont quand même assez précis. Le laboureur, c'était celui qui possédait un équipage, c'est-à-dire qui avait des chevaux et qui pouvait labourer des surfaces importantes en une seule journée. J'emploie ce terme de journée puisque le journal, c'est une mesure de superficie, c'est-à-dire ce qu'on est capable de labourer en 24 heures, en quelque sorte, quand il fait jour, bien sûr. Donc, ce sont des laboureurs qui sont là. Ce sont, bien sûr, les personnages importants, le seigneur, le curé, le maître d'école, enfin, ces gens qui avaient déjà une position privilégiée, entre guillemets, dans la vie de la paroisse. Voilà. Alors, ça n'est pas évidemment la seule révolution, en quelque sorte, au niveau local, puisque le 20 septembre 1792, on assiste quand même à quelque chose d'important, à savoir que le registre des naissances, des mariages et des décès va être maintenant tenu sous la responsabilité du maire, qui faisait ce travail auparavant ? Eh bien, tout simplement, c'était le clergé qui était responsable de ce registre que l'on nommait celui des baptêmes, mariages et sépultures. Il était souvent tenu par le clerc paroissial, le secrétaire de mairie, on dirait de nos jours, qui faisait aussi en même temps souvent le travail de maître d'école. Donc les prêtres sont obligés, à partir de cette date du 20 septembre 92, de remettre leur registre dans les mains du maire. Vous remarquerez quand même que l'on ne parle plus que de baptême, de mariage et de sépulture. C'est-à-dire que tout ça va disparaître pour être remplacé par mariage, décès. Ça veut dire que là, toute la population est concernée. Mais si vous prenez baptême, mariage, sépulture, la population concernée n'est représentée que par les croyants catholiques. Donc sont éliminés ceux qui sont d'une autre religion, même si auparavant déjà, il y avait eu des exceptions. On peut en parler à propos de Jean-Jacques Rousseau, hein, qui lui est protestant et qui va épouser Thérèse Levasseur, qui, elle, est catholique. Et n'oubliez pas que cet acte de mariage n'est pas quelque chose qui est très léger, au contraire, c'est un acte politique. Je referme la parenthèse. Donc les protestants sont en général, ne sont pas comptabilisés à l'état civil. Les gens de religion juive non plus. Les nouveau-nés qui n'ont pas été baptisés n'existent pas. Ils ont même une place un peu à part dans le cimetière. Quant aux sépultures, ce ne sont que les gens de religion catholique qui ont le droit d'être enterrés pour les plus importants dans l'Église, mais pour la plupart, évidemment, dans le cimetière qui souvent a été organisé autour de l'Église. C'est donc le témoignage d'un changement radical, quand même, de la vie communale. On ne va pas s'arrêter là, bien entendu. Le 10 Brumaire, alors là on va se retrouver devant un calendrier révolutionnaire en 3. Je vous rappelle rapidement que l'an 1 de la République c'est 92, septembre 92. Enfin, le 10 Brumaire, je vous donnerai la date traditionnelle pour nous, 31 octobre 1793. La Convention nationale sur la proposition d'un membre décrète que toutes les dénominations de ville, bourg ou village sont supprimées et que celles de commune l'aurait substitué. C'est-à-dire qu'on ne va plus parler du tout ni de paroisse, de bourg, etc. On ne parlera que de communes, ce que nous faisons encore maintenant. Les districts traditionnels sont supprimés au profit des municipalités de canton. Ça veut dire que le département est organisé en canton, comme il est encore au niveau de notre arrondissement, bien sûr. Et le canton, petit à petit, s'approprie des prérogatives communales. C'est une réflexion qu'on peut avoir par rapport à l'évolution politique actuelle qui a tendance maintenant à donner aux communautés de communes un pouvoir de plus en plus important, diminuant d'autant évidemment la part d'intervention des maires. Ces communautés de communes ne sont pas un copier-coller des cantons, mais bon, on n'en est pas loin quand même. Sous le consulat, simplement, on peut continuer, donc on est dans les années là, 1800, c'est au suffrage censitaire que les conseils municipaux sont élus. Petit changement, puisqu'on va petit à petit vers la dictature. Les maires et adjoints des petites communes sont désignés par le préfet, plus d'élection. Donc vous voyez, ça se dégrade aussi. Alors là, je ne vais pas trop m'attarder, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est cette période entre 91, 92, 93. Mais vous voyez que l'évolution des institutions, c'est important. Ce n'est pas un phénomène qu'il nous faut ignorer. Et lorsqu'on voit de nos jours une évolution de ces institutions, il faut être vigilant. Ça représente quand même des tranches de vie qui vont être modifiées, une autorité qui ne sera plus placée au même niveau, etc. Alors, les communes sont donc installées et on va se mettre par la suite à organiser les départements. La nécessité de simplifier la géographie administrative est antérieure, là aussi, à la Révolution. Vous voyez, la Révolution n'a pas tout inventé, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dès 1787, il était prévu de subdiviser les assemblées provinciales, c'était les organes territoriaux les plus importants de l'époque, eh bien, on va subdiviser ces assemblées en départements. Alors, l'idée va être prise par l'abbé Sieyès, donc, qui va proposer la division du royaume en 80 départements de 18 lieues carrées. Alors, une lieue, grosso modo, c'est 4 km sur 4 km carrés, c'est 4 km sur 4 km. Hein. Et ces départements seront subdivisés en 9 cantons, retenus par l'Assemblée nationale constituante. Le nombre et les limites des départements vont être nommés selon l'hydrographie ou la géographie. C'est-à-dire qu'on va donner un nom au département en fonction de la rivière qui s'écoule dans ce département. On est bien placé pour le savoir. Hein. Autour de nous, il y a la Seine, l'Oise, la Marne, etc. Ou la géographie, pensez aux Alpes, aux Pyrénées, etc. Et tout ça, c'est établi par décret. Ben, entre 89 et 90, 4 mars 90, pour la dernière précision, on va dire, législative. La taille du département, comme vous le savez, est définie par la distance que l'on peut parcourir à cheval en une journée. C'est-à-dire que nul habitant du département ne doit se trouver éloigné du chef-lieu départemental de plus d'une journée de cheval. Voilà comment a été établie la taille moyenne des départements qui sont encore les nôtres. Autre révolution, et là, par contre, il n'y a pas d'antécédent, c'est ce qu'on va appeler la constitution civile du clergé. Une date importante, la nuit du 4 août.
La nuit du 4 août 1789, l'abolition des privilèges prive le clergé de ses ressources essentielles, dîmes et casuelles. Le 2 novembre 1789, les biens de l'Église sont mis à disposition de l'État. Crise financière oblige, mais aussi désir de voir s'accroître les petits propriétaires.
C'est une révolution, évidemment, dans le monde qui nous intéresse, c'est-à-dire le monde des campagnes. Hein. Alors, vous savez que l'abbé Chialy était un très grand propriétaire terrien. Il n'est pas lieu ici d'évoquer l'endroit exact où se trouvent ses propriétés, mais ça, c'est un cercle qui fait 100 km autour de Chialy. C'est étonnant. Et lorsque je consulte les chartes, la liste n'en finit pas. Je suis loin d'avoir tout consulté concernant les propriétés de Chialy à cette époque. Donc tout cela va appartenir à la nation et ensuite va être vendu. Soit à des grands propriétaires, soit à des moyens propriétaires. J'ai expliqué tout à l'heure que pour les petits propriétaires, c'est difficile parce qu'on ne vend pas des petites parcelles. Donc on n'est pas encore, et loin de là, dans un État démocratique, encore une fois, qui voudrait donner à chacun la possibilité d'être propriétaire du sol qui lui permettrait évidemment de subsister à ses besoins de nourriture, entre autres. Donc, deuxième chose aussi, l'Assemblée nationale va exiger que les membres du clergé, que ce soit le clergé régulier, ceux qui vivent dans les monastères, qui suivent une règle, tout simplement, on les appelle comme ça, que ce soit le clergé régulier ou séculier, c'est-à-dire ceux qui vivent dans le siècle, ceux qui, comme le curé, vivent avec tout le monde, si vous voulez, ça va jusque l'évêque ou l'archevêque, eh bien, il faut que l'ensemble des membres du clergé prêtent serment à la Constitution, et s'ils ne le font pas, ils seront révoqués. En échange, ils reçoivent comme fonctionnaires, c'est-à-dire que donc les membres du clergé deviennent des fonctionnaires. Ils reçoivent un traitement assez confortable. Et le bas clergé est assez bien servi, faut le dire aussi. Quant aux évêques et les curés, ils vont être élus par le peuple et prêter le serment suivant.
Je jure de veiller avec soin sur les fidèles de cette paroisse qui m'est confiée, d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, de maintenir de tout mon pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi.
C'est une véritable révolution, là, encore une fois, puisque on va dire que l'Église de France, l'Église gallicane, était organisée depuis presque deux siècles et demi. On a eu l'occasion de parler lors de précédentes émissions du Concordat de Bologne, signé entre François Ier et le pape Léon X. Ce concordat donnait au roi de France la possibilité de nommer au aux grandes titulatures ecclésiastiques. Donc c'était le roi qui nommait les abbés, les évêques, etc. Et cette organisation va perdurer jusqu'à la Révolution. Donc supprimer évidemment ce schéma organisationnel est une révolution. Alors quelles seront les réactions de nos moines ? Il restait quand même quelques moines à Chali. Et cette remise en cause donc va procéder aussi avec en faisant ce qu'on appelle les inventaires de nos jours. Vous cherchez un terme historique, mais on va demander aux habitants de Fontenoy-l'Abbaye de faire l'inventaire de tout ce qu'il y a dans l'abbaye. J'ai bien dit Fontenoy-l'Abbaye, hein, les habitants de Fontenoy-l'Abbaye, de faire l'inventaire de tout ce qu'il y a, même les hommes, je dirais. Donc on va voir comparaître les moines, le prieur, et on va faire les comptes, hein, en quelque sorte. Y a-t-il une opposition entre les nobles, parce qu'il y avait quand même un seigneur à Fontenoy-l'Abbaye, hein. Y a-t-il une opposition vis-à-vis des curés ? Y a-t-il une opposition vis-à-vis des moines de la part des habitants de Fontenoy-l'Abbaye ? La réponse est non. Aucun reproche n'est fait, ni au seigneur, ni au curé. Aucun reproche n'apparaît, en tous les cas, dans les comptes rendus municipaux. Hein. On va même trouver des situations un peu cocasses, puisque le seigneur de Fontenoy-l'Abbaye, qui s'appelle Pierre d'Avennes, hein, va faire procéder en 92, il va faire procéder à la destruction, lui, le seigneur, hein, à la destruction des symboles de la puissance seigneuriale, lui-même. Il fait démolir les fourches patibulaires. Vous savez, les fourches patibulaires, c'est le gibet, c'est là où on pend les méchants, hein, les voleurs, les assassins. Il va détruire aussi d'autres symboles comme le banc seigneurial. Il avait une place privilégiée dans l'église, normalement. Et il va faire descendre les armoiries qui se trouvaient dans l'église. Mais ils vont quand même disparaître un peu. Hein, il semble que la situation n'est pas parfaite non plus, même s'ils font des concessions. On va voir ces seigneurs partir un peu à la campagne, un peu plus loin en tous les cas. Un témoignage intéressant, puisque le 30 octobre 93...
Le 30 octobre 93 seront brûlés en place publique, près de l'arbre de la liberté, les recueils relatifs aux droits seigneuriaux, les proclamations royales concernant ces droits, les permissions de chasse dans la capitainerie de Chantilly, les quittances des droits de féodalité et les attributions des charges. Toutes ces pièces, sans exception brûlées, consumées et réduites en cendres, à la grande satisfaction des spectateurs et vrais républicains.
Alors, vous voyez que la Révolution va accélérer évidemment ce mouvement anti-féodal, ce mouvement de déchristianisation progressif, ce qui fait évidemment que les seigneurs vont prendre le large donc dès 93, on peut dire. J'en profite pour parler par exemple de la terreur. Il est évident qu'on a l'habitude de couper la période révolutionnaire en deux parties, une partie de construction, hein, et puis ensuite une partie spécialement de destruction, avec la guerre de Vendée, avec les comités de salut public, avec ces exécutions, avec l'arrivée de la guillotine qui ne cesse de fonctionner, etc. Et on parle de la terreur. Ben, sachez que ce mot n'existe pas à ce moment-là. C'est un terme qu'on emploiera beaucoup plus tard, hein, pour justifier cette deuxième partie de la Révolution. Il est en partie évidemment utilisé pour montrer l'aspect pernicieux de cette Révolution. Il n'est pas évidemment de notre esprit d'avoir un jugement moral. Nous sommes là simplement pour, dans un premier temps, raconter les faits. Hein. En tous les cas, petit à petit, on voit que le culte du Dieu suprême va disparaître pour laisser la place à un culte de la patrie. Une espèce de fusion va s'organiser autour du politique et du sacré.
C'était « Si Chali m'était compté » avec Jean-Marc Vasseur, attaché culturel et pédagogique de l'Institut de France à Chalis.